Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hulquet.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre curiosité. C'est l'émission où on a le droit de se poser des questions sur tout et de se passionner pour tout. Vous allez bien Thomas ?
Ça va très bien, salut Sidonie. C'est notre nouvel horaire, on est ensemble tous les jours sur RTL du lundi au vendredi et c'est jusqu'à 15h au programme. Alors au programme, aujourd'hui, l'histoire d'un meurtre pas comme les autres. Il a eu lieu cet été dans un sous-marin, le Nautilus. La victime, c'était une jeune journaliste. Le meurtrier présumé, c'est l'homme qui a construit lui-même ce navire. On va plonger, c'est le cas de le dire, dans ce mystère tout à l'heure.
Et tout de suite, on se pâme devant les sex-symboles du cinéma italien.
RTL.
Ma vada tu sorella, là. Ma che cambio tono, che cambio? Ma guarda un posto morto de fame.
La curiosité est un vilain défaut.
Ci sta nu cave ladre, chi è? L'usace non lo dico, se no ma resta me.
Noi gente di campagna siamo e la scuola stava lontana 20 km. Così ci andavano solo i maschi, perché le donne in bicicletta non sta bene.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Sophia Loren qui traite un dragueur de mort de faim, pas mal cette expression.
Ben,
Dina,
ouais.
Dina Lollobrigida qui chante sur un âne et aussi Claudia Cardinale, des voix qu'on adore, des physiques qui font rêver, des stars qui ont enchanté la Mostra de Venise, le plus vieux festival du cinéma au monde. La 74e édition commence aujourd'hui, l'occasion pour nous les curieux de raconter le destin de ces sex-symboles du cinéma italien avec notre sociétaire Georges Ayache. Bonjour.
Bonjour.
Salut Georges.
Vous allez bien, on est ravis de vous retrouver au
C'est
micro
réciproque.
De la curiosité. Alors, on va dire que l'un des archétypes des sex-symboles italiens des années 50-60, c'est Sophia Loren. Dans quel film le public la découvre ?
Oh, le public la découvre sur les films avec Mastroianni, hein, à la fin des années 50. Il n'y a pas un film en particulier où elle éclate, mais c'est progressif. Mais ça va très vite. Ça va très vite à partir du moment, notamment, où elle se marie avec Carlo Ponti. Et là, bon, il est évident que les productions sont particulièrement soignées. Et là, elle devient la superstar italienne.
La première apparition de Sophia Loren, c'est une apparition fort marquante pour les hommes et les femmes. Pour quelle raison ?
Absolument, parce qu'elle a fait un peu de striptease dans ses films. En tout cas, elle apparaît seins nus dans des films qui n'ont pas eu, ils ne sont pas restés en circulation très longtemps en Italie.
Il y a Quelle drôle de nuit en 1951 et Deux nuits avec Cléopâtre en 1953.
Absolument.
Et on les cherche beaucoup, ces films.
Mais paradoxalement, ils ont été diffusés en France et ils ont eu plus de succès en France qu'en Italie.
Parce qu'ils étaient censurés en Italie.
Ils étaient censurés en Italie, ils n'étaient pas en France.
Bah, ah,
on pouvait voir les seins en France, donc
les Français
on se régalait.
Vive la France. Elle ressemble à quoi, Sophia Loren, à l'époque ? Elle est toute jeune ?
Elle est toute jeune. Elle avait déjà les formes qu'on lui connaîtra par la suite, ce qui lui permet effectivement d'attirer tous les regards. Mais elle n'était pas considérée comme une star d'emblée. Hein.
Ouais.
On l'appelait même d'ailleurs Miss Antichambre, c'est le surnom qu'elle avait, parce qu'elle était dans les antichambres des producteurs en quête de rôle, parce que ça n'était pas évident.
Ouais. Et alors, on emploie depuis quelques minutes le mot, cette expression américaine de sex-symbole. Est-ce qu'il lui colle particulièrement bien ce mot à Sophia Loren?
Oui, parce qu'il y a eu des actrices qui ont été très très belles aussi en Italie, et qui en, actuellement aussi, hein, jusqu'à Bellucci, mais elle a marqué vraiment son époque et c'était le symbole, même par rapport à Gina Lollobrigida qui était aussi belle qu'elle.
Mais c'est quoi un sex-symbole? C'est à un moment particulier, c'est la femme ou l'homme, il peut y avoir des hommes
qui
ont des symboles.
Oui, Mastroianni,
voilà un mot, qui va marquer son époque, c'est ça ?
Oui, très certainement. Et elle s'identifiait avec ces années 50, l'Italie qui s'est reconstruite, l'Italie exubérante, qui n'a pas honte de cacher ce qu'elle a de mieux. Hein.
Georges Ayache, vous racontez le destin de ces actrices italiennes dans un formidable livre, Le cinéma italien Appassionato, qui est publié aux éditions du Rocher. Et vous dites que Sophia Loren répondait à un besoin de société. C'est la société qui avait envie de ce sex-symbole, pour quelle raison ?
Oui, parce que il faut voir que le cinéma italien a eu plusieurs phases. Et durant la période de Mussolini, il y a eu la période des téléphones blancs, où on a eu des actrices très, très stéréotypées. C'est-à-dire des blondes platines, genre Jean Arlo, avec des décolletés suggestifs. Et voilà.
C'est quoi la période des téléphones blancs ? Petite parenthèse, parce que moi je ne comprends pas la phrase.
C'était la période des années 30 en Italie, la période de Mussolini.
Et pourquoi on l'appelle comme ça ?
Pourquoi ? Parce que les films, c'était toujours les mêmes. Ça se passait dans des milieux chics, et il y avait toujours des téléphones blancs. Le symbole de la classe italienne, okay, etc.
Bon.
Dont Telefoni Bianchi.
Compris, on ferme la parenthèse.
Voilà, on referme la parenthèse. Et alors, cette période se clôt avec la guerre, bien évidemment. Et après, c'est tout à fait différent. Après, c'est la période du néoréalisme, où on a des vedettes tragiques, dramatiques, genre Anna Magnani, c'est pas du tout le même style.
Comment Sophia Loren a-t-elle été repérée ? Il paraît qu'elle ne voulait pas du tout être actrice.
Elle voulait être prof, c'est ça ?
Prof d'anglais.
Oui. Elle
a Ou c'est la légende, ça
elle a ce point. C'est plutôt la légende, parce que je ne sais pas si elle avait compétence. Claudia Cardinal était dans ce style-là aussi. Elle voulait être institutrice.
Et on en parlera tout à l'heure.
Mais oui, elle était détournée de sa vocation.
Oui, c'est triste pour l'éducation nationale italienne.
C'est triste, en effet, pour les élèves qu'elle aurait pu avoir.
C'est quoi? C'est un concours de Miss qui l'a fait repérer? Parce que c'était beaucoup ça à l'époque.
Ça a été beaucoup ça à l'époque. Ouais. Pas mal d'actrices très en vue sont passées par des concours Miss Italie, Miss Rome, etc. Et elle est passée par là sans avoir gagné la palme.
D'ailleurs, à la Mostra de Venise, elle a déjà été récompensée, Sophia Loren, j'imagine.
Oui, sûr. Elle a été même à plusieurs reprises.
Oui, c'était d'ailleurs notamment pour L'Orchidée Noire, un rôle dans L'Orchidée Noire.
Absolument, c'est un film anglo-saxon.
Alors, un film de Martin Ritt.
On va découper comme ça cette interview avec plusieurs sexe symboles. Il a fallu choisir parce qu'il y en a beaucoup.
Sûr, oui.
Donc on commence avec Sophia Loren. Chacune d'entre elles a une scène culte en quelque sorte. Pour Sophia Loren, c'est quel film d'après vous?
C'était des films avec Mastroianni. Il y a eu plusieurs scènes cultes, etc. Mais
il y a par exemple dans Hier, Aujourd'hui, Demain avec Mastroianni où elle joue le rôle d'une prostituée et elle se déshabille. Et on pense qu'elle va aller jusqu'au bout, et finalement, elle ne veut pas enlever le soutien-gorge. Elle est énervée, et elle s'en va. Et Mastroianni est très énervée aussi.
Oui, alors on peut le comprendre. En tout cas, on a retrouvé une archive. Alors, elle est particulière, elle est en anglais, Sophia Loren, qui parlait bien français, je crois,
et
également très bien anglais. Elle parle justement de Marcello Mastroianni. Écoutez.
Dès qu'on me proposait un rôle avec Marcello, je répondais oui, sans même lire le script. Parce que je savais qu'avec lui, tout se passerait bien. Il me connaissait et je le connaissais lui, son sens de l'humour, sa manière d'improviser, de ne jamais apprendre ses répliques.
Et parfois, il venait sur le set avec ses yeux ouverts.
Parfois, il arrivait sur le plateau avec ses yeux grands ouverts, disant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant ?» Et je répondais « C'est ton problème. T'aurais dû te lever plus tôt et apprendre tes répliques. »
Georges Ayache, qui c'est qui a eu l'idée de réunir Sophia Loren et Marcello Mastroianni?
Le hasard.
C'est vrai.
Le hasard.
Il est doué. Hein.
Oui, absolument. Il était très doué. Et ça a collé tout de suite. Hein. Ça a été un duo fabuleux.
Est-ce qu'ils ont été amants, tous les deux?
Le bruit a couru, mais vous savez, oui, il court sur n'importe qui. Là, je ne pense pas.
Sophia Loren, elle a quel âge aujourd'hui?
Alors là, c'est une colle.
Elle a un peu plus de 80 ans, je crois.
Elle a passé les 80.
Ouais, elle a passé les 80.
Allez, dans un instant, un autre sac symbole dans notre studio, Gina Lollobrigida. Vous allez vous asseoir à côté de Sophia Loren, là, tout de suite. À tout de suite, les curieux.
Vous écoutez RTL.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est le Mambo Italiano, Sidonie.
Avec vous, je danse tout, Thomas.
Je vais vous prendre, moi, ils nous font rêver. Elles sont belles, talentueuses. On découvre le destin des sex symboles féminins italiens avec l'écrivain Georges Ayache à l'occasion de l'ouverture de la Mostra de Venise. Tiens, ça veut dire quoi, Mostra, d'ailleurs?
C'est le festival.
L'exposition, c'est ça?
Une
exposition. C'est ce qu'on montre, quoi. C'est ce qu'on montre, la Mostra. Alors, on vient de parler de Sophia Loren. On va maintenant consacrer du temps à Gina Lollobrigida. Déjà, rien que son nom, moi, il me donne la banane, il me donne le sourire. C'est une concurrente de Sophia Loren? Elles sont un peu à la même époque?
Elles sont à la même époque, oui. Exactement. On en a fait des concurrentes, mais elles étaient dans des styles un peu différents. Elles étaient un peu différents et ça n'a pas... Il n'y a pas eu de rivalité perfide entre les deux.
Pourquoi c'est des styles différents? Ouais. Parce qu'il y en a une qui est peut-être encore plus sex symbole et voluptueuse que l'autre, Gina Lollobrigida?
Non, c'est Sophia Loren probablement qui a des formes plus épanouies, mais Gina Lollobrigida était vraiment, elle avait des mensurations irréprochables. Et bien des acteurs à l'écran ont failli succomber à son charme.
Elle vient d'où, elle aussi? Comment elle est repérée?
Elle est repérée par un concours.
Concours aussi, de beauté, c'est pareil.
Ouais. Italie, hein. Elle, oui, Sylvana Mangano, des tas d'actrices comme ça ont été repérées. Ce qui avait fait dire au metteur en scène Dino Rizzi, si vous voulez vous dégoûter des femmes, allez à un concours de Miss Italie.
Mais c'est ce que j'allais dire, c'est les pratiques à l'époque en Italie, les producteurs italiens allaient vraiment piocher dans les concours de Miss pour alimenter le cinéma?
Ils y allaient, oui, tout à fait, parce que ça n'était pas évident. Les filières étaient rudimentaires, hein, à l'époque. Hein, donc il fallait bien trouver des gens... ou alors il y avait des annonces. Rossellini faisait passer des annonces quelquefois pour trouver tel rôle, et généralement il était déçu. C'est à la sauvette qu'il trouvait de manière pragmatique ses interprètes.
Ouais, mais enfin, on peut être un beau mec ou une jolie fille et n'avoir aucun talent pour jouer la comédie. Donc il suffit pas d'être une femme pulpeuse quand même.
Oui, mais il y avait des auditions aussi, mais les auditions étaient trompeuses. Il y avait un exemple qui est resté célèbre, Sylvana Mangano, ouais, qui avait triomphé dans Riz Amer. Personne n'en voulait pour ce film. Le metteur en scène, il a fallu qu'elle fasse je sais pas combien de répétitions pour qu'il l'accepte, mais le producteur était irréductiblement hostile. Un an plus tard, il l'épousait.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle est Dina Lollobrigida, donc, et gagne un concours de Miss, mais pas seulement, elle devient d'abord une star du roman photo.
Oui.
C'est quoi ce genre très prisé en Italie ?
C'est un genre typiquement italien. C'est-à-dire que pour les gens qui n'avaient pas les moyens d'aller souvent au cinéma, il y avait dans les banlieues, dans les campagnes, eh bien des sortes de magazines qui sortaient. Et donc c'était des photos. Et on faisait un roman à partir de ça. On mettait des bulles à l'intérieur et on composait une sorte de roman.
Des histoires d'amour à l'eau de rose, j'imagine.
Amour à l'eau de rose intégrale. Mais ça tenait en haleine un public qui était très fidélisé. Hein. Ça avait un grand, grand succès à l'époque. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'éditeurs qui se sont fait une concurrence, parce qu'il n'y avait pas un seul magazine, il y avait 3, 4, 10. Hein.
Nous, on a eu Nous Deux, Nous Deux existe toujours, c'est le magazine que j'utilisais quand j'étais petite, quand j'étais chez Mamie Denise.
C'est bien, et alors moi, je suis fan de BD, et il y a une revue que j'adore qui s'appelle Pluie Glaciale, qui détourne les romans photos, et c'est vraiment très, très savoureux. Je vous conseille d'en lire juste un dans votre vie pour voir ce que ça donne un roman photo, version Pluie Glaciale. C'est quoi le film qui propulse Gina Lollobrigida au rang de sexe symbole, un film de Luigi Comanci? C'est ça?
Non, je ne crois pas que ce soit des films italiens d'ailleurs. Sur les films français, il y a Fanfan les Tulipes qui a vraiment fait pour sa célébrité, et puis Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris l'a vraiment consacrée comme une star mondiale. C'est le film clé pour elle, incontestablement. Alors évidemment, dans le genre un peu souriant et léger, il y a Les Pains, Amour et Fantaisie. Avec De Sica, oui. elle allume De Sica dans tous ses films.
Oui, et puis dans ce film, Gina Lollobrigida, elle danse, elle chante. C'est un peu là qu'elle acquiert ses gammes d'actrices quand même. C'est plus la belle nénette qui a gagné.
C'est une vraie actrice.
Miss Italie.
Non, c'est une vraie actrice, de même que Sophia Loren sera consacrée comme une vraie actrice. Sophia Loren a eu son Oscar sur un film tragique, dramatique, La Ciociara. De Sica, c'est pas du tout un film léger, c'est pas un film où elle montre ses formes, pas du tout. Donc ça montre vraiment que c'est sur les critères de comédienne qu'elle a été consacrée.
Elle fait partie de ces sex symboles du cinéma italien qui sont partis à la conquête du monde, Gina Lollobrigida, assez vite.
Ils ne sont pas partis. Hein. Ils ne sont pas partis. Justement, les Italiens sont restés chez eux les trois quarts du temps. Et ceux qui ont tenté l'expérience outre-Atlantique sont vite revenus.
Pourquoi ? À cause de la langue ?
La langue, d'abord, était incontestablement un obstacle. Et puis, le système de direction d'acteurs n'était pas du tout le même.
Pourquoi ? Racontez-nous, Georges Hayash.
Le système hollywoodien était très stéréotypé, très, très, très mécanisé, etc. Le système italien, c'était des artistes. Les Fellini, les Rossellini, les Visconti, c'était de vrais artistes.
Ça veut dire qu'il y avait une grosse part à l'improvisation pour ces actrices italiennes et ce cinéma italien à l'époque ?
D'un côté, et puis c'était des films de facture plus artistique que la production en série américaine qui les ont dégoûtés. Mmh. Quand Gassman a été en Italie, on les fait jouer des trucs de brigands, etc. Alors qu'ils jouaient au théâtre de Ibsen, etc.
Ouais, donc c'est quoi ?
Le contraste, c'était très fort.
C'est plutôt le cinéma français qui leur a ouvert des portes aussi, puisque...
aussi.
Finalement, Sophia Loren ou Gina Lollobrigida, elles ont joué dans des films en français.
Il y a eu une grande interpénétration à l'époque entre le cinéma français et le cinéma italien. Ouais. Beaucoup d'acteurs italiens sont venus jouer en France, et à l'inverse, beaucoup d'acteurs français ont débuté leur carrière en Italie. Hein. Jacques Perrin, Trintignant...
Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, Gina Lollobrigida ? Elle a quel âge déjà ?
Elle a 90 ans. Elle n'est pas un peu plus âgée que Sophia Loren, mais elle s'est consacrée depuis au moins 20 ans, depuis qu'elle a abandonné, même plus, puisqu'elle a abandonné le cinéma à cette époque.
Elle a 40 ans.
À la photo d'art.
La photo d'art,
et elle s'y est consacrée, elle a fait des expositions, elle était très connue à ce titre-là, et elle a une seconde vie professionnelle.
Ouais. Double vie des sex symboles, quelle chance.
Et Sophia Loren a eu la nationalité française, j'ai découvert ça en préparant l'émission.
Et oui, par la force des choses, parce que le mariage avec Carlo Ponti, qui était lui-même marié, avait fait scandale. Et d'ailleurs, ils ont failli aller en prison l'un à l'autre. Hein. Mmh. À l'époque, en Italie, on ne rigolait pas avec autre chose. C'était très puni par la justice. Donc, ils sont partis en France, où je crois c'est Pompidou qui leur a accordé la nationalité française. Et donc, ils ont pu se marier en France et rentrer dans la légalité.
Bon, allez, moi, celle que je préfère peut-être, chacun ses goûts, c'est Claudia Cardinal. Ça tombe bien, on en parle tout de suite. Restez avec nous sur RTL.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Vedo qualche film in televisione e vedo che è bella. La donna che non ha una cultura, non ha un'anima, non ha la bellezza, svanisce, quindi non può essere bella a lungo.
La curiosità da fino a dei fuori.
Per me non ci saranno delusioni. E poi tutte queste cose non mi piacciono. Voglio restare sempre qui, con te.
Quand on fait un pari, il faut être sport. Et c'était mon droit de faire appel aux Gaulois.
Non mais je...
Tu n'es pas un pays conquis ici.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Monica Bellucci, sexy en diable, en Cléopâtre, dans Axis.
Et en colère aussi.
Et en colère, Ornella Muti qui veut s'en aller. Et Laura Antonelli qui parle de la beauté intérieure, portrait de sexe symbole du cinéma italien avec l'écrivain Georges Ayache. Laura Antonelli qui parle comme ça de la supériorité de la beauté de l'âme sur celle du corps. Ça veut dire qu'elle a souffert de son extrême beauté?
Oui. Oui, elle a souffert parce qu'on l'a considérée uniquement sur un plan esthétique. On n'a accordé aucun crédit à ses talents réels de comédienne et elle en a souffert, si bien qu'après, quand elle s'est retirée de la course, elle était brisée.
Et surtout, alors elle est morte il y a 2 ans, Laura Antonelli, elle n'avait plus rien du sexe symbole.
Non, plus rien malheureusement.
Elle était même défigurée.
Complètement. Il y a eu deux catastrophes dans sa vie. La première, c'est quand on a découvert 6 grammes de cocaïne dans son sac. Donc elle est rentrée dans des procédures qui ont duré une dizaine d'années. Et durant cette période-là, tous les producteurs lui tournaient le dos et lui fermaient la porte. Donc sa carrière était finie. Et puis ensuite, quand elle s'en est sortie, elle a tenté de la chirurgie esthétique. Et c'était les débuts de la chirurgie esthétique. Et c'était une sorte de cobaye. Et tout a raté, je veux dire. Elle était défigurée. Mmh. Et toute sa vie... l'alcool aidant, elle était bouffie, obèse, elle est morte dans une misère indescriptible il y a 2 ans en effet. Mmh. Elle, comme d'ailleurs un autre sexe symbole de la Dolce Vita, Anita Ekberg, qui a eu le même destin à peu près, qui est mort dans une détresse infinie. Mmh.
Effectivement, il y a ces périodes douloureuses aussi, parfois en fin de carrière pour ces actrices qui ont connu une gloire immense. La période de gloire pour Laura Antonelli, c'est quand? C'est les années 70, c'est ça?
La fin des années 60, début des années 70.
D'accord,
avec
ouais.
Un film qui s'appelait Malitia. Ouais. Et elle a explosé. Alors, elle n'a pas construit sa carrière graduellement. C'est sur une scène qui a duré 7 secondes. Elle monte une échelle d'escalier.
Ah, mais oui.
Et là, alors, tout le monde a craqué.
Et qu'est-ce qu'on voit alors? Des jambes?
Elle fait le ménage, c'est ça. Elle fait les vitres.
La suggestion que ça produit est dévastatrice.
Ah, ça se trouve, je suis plus sexy que je pense quand je fais le ménage. J'y pense pas toujours.
Sûrement, si Denis, faites le plus souvent. Mais si je me souviens, il y a plusieurs générations d'hommes qui la regardent en même temps, c'est ça, dans cette scène,
absolument.
Qui sont tous subjugués.
Et c'est après qu'elle vient jouer en France dans Les Mairies de l'an 2 et elle rencontre Belmondo.
Ils ont une histoire, une longue histoire ensemble, c'est ça?
Une longue histoire qui a duré plusieurs années. Et effectivement, à l'époque, Belmondo était avec Ursula Andress, qui l'a mal pris, évidemment.
Alors, on embrasse Jean-Paul Belmondo, parce que c'est l'un des grands fans de l'émission de la curiosité. Hein. Jean-Paul Belmondo, qui nous a envoyé des baisers il n'y a pas longtemps, pour nous dire qu'il nous écoutait, et on l'embrasse aussi, on aime parler de lui.
Quel bonheur d'enchaîner Ursula Andress et Laura Antonelli. J'aurais dû faire comédien.
On vous envie. Dans les pages de votre livre, Le cinéma italien appassionato, qui est édité aux éditions du Rocher, on découvre aussi une autre star italienne, c'est Claudia Cardinal, la femme préférée, enfin l'actrice préférée
après ma femme,
après Isabelle évidemment. Encore une femme, une actrice incroyable, un sexe symbole qui ne voulait pas devenir actrice.
Elle ne voulait pas devenir actrice, elle voulait être institutrice. Elle était à Tunis, donc d'origine italienne, mais ne parlant pas un mot d'italien. Ce qui fait que pendant la plus grande partie de sa carrière, sinon la quasi-totalité, elle a été doublée. Elle ne savait pas parler italien avec un accent, elle avait un accent français coupé au couteau.
Et qu'est-ce qui fait que Claudia Cardinal, qui ne parle pas italien et qui veut devenir institutrice finalement, devient une star de cinéma? Comment elle est repérée?
Un concours à Tunis. Un concours, elle est repérée par deux cinéastes et puis un producteur qui s'appelait Franco Cristaldi, qui est devenu un des plus grands producteurs italiens, qui l'a épousée d'ailleurs. Et bon, par la suite, on a su les raisons de son mariage qu'elle a dévoilé dans ses mémoires.
Vous nous le rappelez?
Elle a été violée très jeune, elle attendait un enfant et Cristaldi l'a épousée pour étouffer le scandale qui se serait produit. On était dans les années 60. Hein. Donc il est évident que c'était une période très très dure pour elle et qui a perduré, puisque dans les années après, elle a fait de tout pour ne pas passer pour la mère de son enfant. Donc ça a été
le drame de sa vie. Ouais.
Psychologiquement, ça a été très très éprouvant. Mais elle a surmonté avec une grande élégance et Cristaldi aussi d'ailleurs, et tout s'est bien passé grâce à leur grandeur d'âme à l'un et l'autre.
Alors Claudia Cardinale, qui a tourné avec beaucoup de grands réalisateurs, elle dit que l'un des plus importants, ou le plus important, c'était Luchino Visconti. Écoutez cette archive où elle parle justement de Visconti.
Il m'appelait Claudine, il ne me parlait qu'en français, il m'écrivait en français. Visconti me manque beaucoup, surtout quand je tourne certains films. Et je me dis, ah si Luchino était là.
Visconti qui manque à Claudia Cardinale. Ils ont tourné combien de films ensemble, vous le savez, Georges Ayache?
Pas exactement, mais je me souviens du principal, évidemment, qui l'a marqué et qui a marqué aussi la carrière de Visconti, c'est Le Guépard. C'est incontestablement, les scènes du Guépard ont été très inoubliables, non seulement sur la qualité artistique en tant que telle, mais surtout le décorum et le perfectionnisme qu'avait montré Visconti pour l'organisation de ces scènes. Ça marque tous les comédiens. Delon aussi a dû être marqué par cette période.
Est-ce qu'il y a une scène culte de Claudia Cardinale qui vous a marqué, vous, Georges Ayache?
Ah ouais, les scènes cultes de La Mauvaise Vie et des scènes avec Trintignant.
C'était quoi son chic? Quel est le chic de Claudia Cardinale à l'écran?
Cardinale...
Sa touch de sexe symbole.
Cardinale, c'est d'abord un physique, mais c'est aussi une voix. On a parlé récemment de la pauvre qui vient de disparaître, Jeanne Moreau, qui avait une voix très très particulière. Mmh. Mais Cardinal avait une voix rauque, un peu cassée.
On vient de l'entendre, qui était sexy en diable, cette voix.
Sexy en diable, et ça rajoutait effectivement à son charisme. Mais par rapport à Visconti, ça a été une entente immédiate. Hein. Visconti avait tout de suite compris qu'elle était son égérie, et il n'en a pas démordu.
Claudia Cardinal, qui a fait rêver beaucoup d'autres hommes que moi, l'ancien conseiller de Lionel Jospin, Aquilino Morel, qui sort un livre, je crois que son livre est paru il y a quelques mois, L'Abdication. Dans ce livre, il affirme que la nuit où Diana est morte, on cherchait Jacques Chirac, président de la République, pour faire une déclaration. Il était introuvable parce qu'il était avec.
D'accord.
Je vous laisse terminer la phrase.
D'accord, moi j'imagine. L'imagination prend le dessus.
Alors vous savez que lorsqu'on est un sex symbole du cinéma italien, parfois il faut prendre de bonnes assurances pour protéger sa poitrine, par exemple. Bah oui, c'est vrai, c'est un outil de travail précieux. Il faut le protéger. À toutes les curieux.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
RTL.
De 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Les sex symboles féminins du cinéma italien, c'est notre curiosité du jour avec l'écrivain Georges Ayache, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Laura Antonelli, et puis maintenant dans ce panthéon, Ornella Muti. Alors comment démarre sa carrière? Qu'est-ce qu'elle fait avant d'être actrice? C'est une jeune fille?
C'était un homme.
Elle est bonne celle-là. Elle est passée par les concours de Miss comme toutes les autres, c'est quoi
elle
son
histoire? Elle a fait quelques concours de Miss, mais elle avait une beauté tellement éclatante qu'elle n'a pas eu de mal à grimper les échelons. Et puis l'époque avait changé, hein, depuis les Sophia Loren, oui, et Lollobrigida.
Donc là, on est quand?
Là, on est dans les années 70.
Dans les années 70, ce qui lui donne sa chance, hein?
Un producteur, je pense.
Moi, j'ai vu que c'était dans son premier film, c'était Seul contre la mafia, le réalisateur Damiano Damiani. Qui a un coup de cœur pour sa beauté. Incroyable.
Oui. Et par la suite, tous les producteurs et réalisateurs auront le même coup de cœur, en effet.
Est-ce qu'elle va, elle aussi, trouver un autre lieu pour s'exprimer, la France? Est-ce qu'elle fera aussi une carrière française?
Oui, elle a beaucoup tourné en France également. Comme beaucoup d'acteurs, d'actrices italiennes, Sandrelli a tourné beaucoup en France, Stefania Sandrelli. Viernalisi également a joué en France. Donc l'interpénétration n'a pas ralenti.
Et Ornella Muti qui partage l'affiche avec Alain Delon et Mireille d'Arc. On a parlé de ce couple magnifique avant-hier sur l'antenne de la Curiosité. Donc ils sont retrouvés tous les trois dans ce film Mort d'un pourri. Ça, c'est un film qui va propulser Ornella Muti. Elle apparaît absolument divine. Oui. Vénéneuse.
Elle est au sommet de sa carrière et effectivement, vous avez employé les bons qualificatifs, elle fait à la fois divine et vénéneuse. Et son succès résulte justement de cette combinaison qui est très détonnante.
Qu'est-ce qui fait leur différence? Qu'est-ce qui marque leur différence? Parce que depuis une demi-heure ensemble, Georges Ayache, on découvre ces femmes qui sont comme ça, comme des étoiles qui brillent toujours, même si elles ont arrêté depuis longtemps leur carrière, ces étoiles du cinéma italien. Qu'est-ce qui fait leur différence?
Je ne sais pas si les différences tiennent à leur particularité individuelle, mais elles tiennent à la période dans laquelle elles ont émergé. Et les périodes sont tout à fait différentes. D'un côté, on a l'Italie qui se reconstruit, qui se réaffirme, et puis par la suite, on a une Italie sûre d'elle-même. Et après, on a les Italies des années de plomb. Donc, le rapport à la femme et à la star n'est pas le même. Et donc, chacune répond à une époque très très différente, même si elles ont à peu près les mêmes caractéristiques.
Et est-ce qu'elles ont pu se détacher justement de ce côté sex-symbole, c'est-à-dire prouver qu'elles étaient des actrices à part entière et pas seulement une belle plante avec des mensurations généreuses?
Elles ont toutes tenté, oui. Elles ont toutes tenté parce qu'aucune d'entre elles ne voulait être réduite à ces dimensions-là. Mmh. D'ailleurs, il y en a une qui est partie littéralement, qui a arrêté la carrière, c'est Lucia Bosé, qui était peut-être la plus grande, dont on parle le moins d'ailleurs, dans les années 50, et qui est partie après en Espagne. Mais elle a refusé d'être réduite à cette dimension purement physique.
Ornella Muti, qui avait grande conscience de sa beauté et qui, est-ce vrai, est-ce une légende, a fait assurer sa poitrine pour 350 000 euros, si on fait un peu la...
C'est la vérité. Comme aux États-Unis, certaines faisaient assurer leurs jambes, et là, elle a fait assurer sa poitrine, et c'est une grande prévoyante.
Que fait-elle aujourd'hui?
Remarquez, j'ai un copain, j'ai un copain qui est coiffeur et qui a fait assurer ses mains, parce que c'est son outil de travail.
Absolument.
Mais c'est logique finalement.
Et si on faisait assurer nos voix?
Voilà, c'est ce que j'allais vous suggérer. Vous devriez faire assurer vos voix.
et vous, votre main ou votre plume, Jean Jaillache?
Merci.
Puisque vous êtes écrivain, il n'y a pas de jeu de mots. Évidemment, aujourd'hui c'est l'ouverture de la 74e édition de la Mostra de Venise, Jean Jaillache. Est-ce qu'il existe encore des sex-symboles féminins italiens dans ce cinéma?
À mon avis, il n'y en a qu'une, mais c'est très subjectif. Hein, comme impression, c'est Monica Bellucci. C'est très certainement parce qu'elle a duré un certain temps, parce qu'elle vieillit et elle reste toujours un sex symbole, même un peu vieillissante. Et vraiment, elle est très atypique à ce niveau-là.
Comment démarre sa carrière? Par du mannequinat, elle aussi?
Oui, du mannequinat. Du mannequinat, d'ailleurs, c'est le lot de pas mal d'actrices maintenant. Ouais. Elle perce en tant que top modèle et après, elles font un débouché sur le cinéma. Mais elle a particulièrement bien réussi, en effet, parce qu'elle a prouvé des talents d'actrice tout à fait remarquables.
Alors, c'est marrant parce que Monica Bellucci aussi, qui fait mannequin pour se payer des études de droit. Donc, elle aussi, elle se destinait à une autre carrière. Ouais. Elle va aller faire du cinéma en France. Il y a un premier film, c'est L'Appartement. C'est là qu'elle rencontre
Vincent Cassel. Oui, tout à fait. C'est le film qu'il a consacré ici. Mais en Italie, il y avait un autre film où elle avait été consacrée. C'était un film qui s'appelait Sangue Pazzo, c'est-à-dire une histoire italienne qui a été tournée en France. Elle incarne elle-même l'histoire d'une star italienne des années 30, qui a fini tragiquement parce qu'elle a été fusillée en 1945, et elle joue ce rôle de manière très très pathétique. Elle se révèle comme une grande comédienne.
Dernier mot rapide, parfois oui. J'ai l'impression que c'est plus une star en France qu'en Italie. C'est faux ou c'est vrai?
Non, c'est vrai. C'est vrai, elle est tellement adulée en France qu'on peut avoir se poser la question en effet. Mais elle est très connue en Italie, je vous rassure.
Et puis ça a été une James Bond girl.
Aussi.
Et elle a un record, c'est la James Bond girl la plus vieille de l'histoire du cinéma et de l'histoire de la série.
Bah oui.
50 ans, c'est
à
pourtant pas vieux.
On peut être James Bond.
Mais voilà, une sex symbole jusqu'à la fin des temps. Merci beaucoup, Georges Ayache. Vous publiez Le cinéma italien Appassionato aux éditions du Rocher. Beaucoup d'autres destins à y découvrir et des sex symboles masculins aussi. J'espère qu'on pensera aux femmes.
Vous écoutez RTL.